Voix Nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois
Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale.
Cinquième épisode, je ne suis pas une arme de guerre. Et vous ? Bonsoir Céline Bardet.
Bonsoir.
C'est notre dernier entretien pour cette série de 5. Après avoir parlé de la justice pénale internationale, des crimes de guerre, de votre expérience dans les Balkans, de votre travail acharné auprès des institutions internationales pour que la justice se soit rendue, j'aimerais qu'on termine cette série sur le combat que vous menez depuis près de 10 ans, peut-être même plus maintenant, pour que soient reconnues les victimes de viols de guerre. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour terminer cette expérience dans les Balkans que vous avez eue, en vous demandant rétrospectivement, ce qui a été le plus dur à vivre pour vous, le plus dur à faire?
Le plus dur à faire, je crois que c'était clairement l'ouverture des charniers. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement... je sais même pas comment on peut décrire ça. Ouvrir un charnier, retrouver des corps. Et en même temps, avoir cette dignité dont je parlais des mères, principalement sont les femmes, parce que ce sont les hommes qu'on retrouve dans les charniers, qui sont là, qui attendent, qui reconnaissent leur fils avec un bout de chemise. Parce qu'il faut savoir que les vêtements ne se désintègrent pas aussi vite. Ça, c'est quelque chose que je savais pas et que j'ai découvert. Et ce qui m'a le plus marqué, par contre, comment dire, d'un point de vue émotionnel, et je crois qu'encore aujourd'hui, il n'y a rien au-dessus de ça, c'est une fois que les gens sont identifiés, etc., on rend les morceaux des gens qui restent et on peut aller enterrer son mari, son fils. Et j'ai fait toutes ces cérémonies-là avec les victimes. Et ça, émotionnellement, je ne peux même pas le décrire. Mais c'est, et je pense vraiment encore aujourd'hui, c'est la chose la plus forte que j'ai vécue émotionnellement parce qu'il y a le fait de clore quelque chose. Et qui est aussi une histoire individuelle, c'est ton fils, ton mari, ton père, et en même temps c'est collectif parce que ce sont des enterrements collectifs, donc il y a cette espèce de chose comme ça individuelle et collectif et qu'on vit tous, et cette émotion qu'on vit tous et qu'on partage, et ça m'a profondément marqué.
Vous disiez d'ailleurs en commençant l'émission d'hier que la Bosnie, ça avait sans doute été l'expérience la plus forte pour vous, non seulement dans votre carrière, mais aussi dans votre vie. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que nous parlons aujourd'hui des viols de guerre, parce que c'est en Bosnie précisément que vous avez vu des camps de viols que vous n'avez retrouvés nulle part. Dites-nous ce qui a fait que vous avez commencé à travailler sur les viols de guerre. Est-ce que c'était une absence de réparation pour les victimes, un trou juridique ou une méconnaissance absolue du viol de guerre comme arme?
D'abord, c'est ça. C'est la dernière. C'est-à-dire, il y a une méconnaissance. Il y avait à l'époque, encore aujourd'hui, mais un peu moins, mais justement, mais il y a une méconnaissance, en fait, de ce que c'était. C'est-à-dire que les violences sexuelles, les viols dans les conflits, on va dire, c'est vieux comme le monde. Mais
dans les années 90.
Voilà, il y a eu ce tournant dans les années 90. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Et puis de comprendre aussi qu'on est au-delà, et ça n'enlève rien à la gravité du viol, ce qu'on appelle en droit le viol simple de droit commun. C'est que là, on est vraiment dans une posture d'aller violer. Ça fait partie de l'humiliation qui définit un conflit. Souvent, le conflit, on est là pour humilier l'ennemi, avec des stratégies, avec des choses organisées. Donc, c'était ça qui manquait, je trouve, beaucoup à la compréhension publique de ça. Et puis, l'invisibilisation des victimes. Parce que moi, quand je suis arrivée en Bosnie, j'ai conduit cette affaire, justement, de ce procès de Svieta, pour viol, qui est devenu le premier procès pour viol de guerre au niveau national, au tribunal pénal international pour l'AE. Les viols de guerre ont été traités d'ailleurs assez bien au fur et à mesure des années. Mais voilà, en Bosnie, il n'y avait rien. Et surtout, il y a eu un effet. C'est là où j'ai eu un déclic, en fait, parce que je n'avais pas un intérêt spécifique sur la question des violences sexuelles. Et aussi, on m'a beaucoup posé la question aussi si moi, j'avais vécu quelque chose. J'ai rien vécu de personnel. Je n'ai pas de lien personnel avec ça. Et je n'avais pas un intérêt. Je travaillais sur les crimes de guerre, sauf que Svieta, j'ai vu tous les trous juridiques qu'il y avait, et c'est donc ce manque de reconnaissance, toute la difficulté qu'il y avait à prouver ces viols, encore plus quand on conduit un procès 15 ans après. Svieta, son procès pour viol de guerre, c'est 15 ans après. Il faut quand même essayer de comprendre ça, quoi, ce qui est le cas souvent pour les crimes de guerre. Et le fait qu'après le procès de Svieta, d'un seul coup, il y a des femmes qui ont commencé à arriver au bureau pour vous venir me parler. Et ces femmes-là, elles n'avaient pas parlé. Donc il y a ça. Donc j'ai compris aussi qu'il y avait un mécanisme singulier autour de ce type de crime et que donc il fallait y donner des réponses singulières. C'était pas la même chose. Et c'est pas une question de gravité. Moi, je considère pas un crime plus grave que l'autre. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a quelque chose de singulier qui est lié à la violence sexuelle, stigmatisation, tout ce qu'on veut, la honte, le silence, etc. Donc, il faut y répondre différemment si on veut que ces crimes-là soient aussi considérés que les autres.
Et pourquoi c'est important de faire reconnaître le viol comme arme de guerre ?
Ben, c'est important parce que la violence sexuelle, c'est une chose, mais là, c'est important de se rendre compte que le viol, d'un seul coup, devient... moi, j'ai toujours eu cette expression-là, c'est-à-dire c'est comme la Kalachnikov, c'est rien, un conflit, et puis on a différents types d'armes. On peut bombarder, on peut prendre une Kalachnikov, on peut... Je suis pas une très spécialiste dans les armes. Un mortier, on peut prendre le viol. Le viol, il est utilisé comme un objet d'arme. C'est ça qu'il faut comprendre dans les conflits. Et ça, c'est important parce qu'il devient un élément...
Parce que c'est humilié pour détruire. C'est intentionnellement détruire.
Ouais. Déjà, j'ai envie de dire, le viol, c'est une prise... Le viol, à la base, c'est une prise de pouvoir, de manière générale, n'importe quel viol. C'est la prise de pouvoir de quelqu'un d'autre. Le viol, dans un conflit, il y a cette prise de pouvoir, il y a cette humiliation. Et il faut aussi rappeler, c'est mon combat aussi très fort, c'est que à grande majorité, il concerne les femmes, mais les hommes aussi. Donc on est dans l'humiliation, on est dans, par exemple, la participation à un nettoyage ethnique, c'est-à-dire on va mettre des femmes enceintes. En Bosnie, c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu ces fameux camps de viol, où on violait les femmes à répétition pour les mettre enceintes d'enfants serbes. Donc il y a une idée de purification de la race. Le viol peut être un élément de génocide. Au Rwanda, on violait les femmes, et on les tuait. Il y en a beaucoup qui ont été tués ensuite. Mais donc, il y avait comme quelque chose de salir, d'humilier. Et qui on humilie ? On humilie la victime qu'on viole, mais on humilie tout le monde autour. On humilie le mari qui n'a pas su protéger sa femme, le père. On humilie toute la communauté. C'est ça, moi, je dis tout le temps, c'est vrai, j'ai cette phrase qui a été beaucoup reprise, voilà, le viol est une arme à déflagration multiple. Donc, c'est une arme, quelque part, extraordinaire. Et qui coûte zéro. Donc voilà.
Et la plupart du temps, les victimes et leur entourage se taisent. D'où la grande difficulté d'arriver à les faire parler. Et c'est ce que vous avez, par exemple, vu, constaté en vous rendant en Libye. Ouais. Parce qu'en Libye, vous y êtes parti en 2013 pour conseiller le gouvernement de transition, après les événements de 2011. Et là, vous avez travaillé justement spécifiquement sur les victimes des viols de guerre. Il se trouve qu'en Libye, c'est beaucoup des hommes.
Il y a beaucoup d'hommes. Il y a eu deux étapes en Libye, si je puis dire. Il y a eu la révolution de 2011. Où les femmes ont beaucoup été violées et elles étaient violées dans les rues, parce que le viol de guerre, c'est ça aussi, il est public, le viol, la plupart du temps. Si on vous viole devant votre famille, on vous viole dans la rue, on viole devant tout le monde. Donc il y a toujours cet aspect là d'humiliation publique, etc. Donc en Libye, en 2011, il y a eu beaucoup de viols de femmes, et après il y a eu vraiment une cible de viol des hommes. Et ça, on rentre encore dans le tabou du tabou du tabou. Parce que déjà, on est dans un tabou. Les violences sexuelles, le viol, on n'en parle pas. Toute la communauté, il y a une honte, donc il y a un silence. Et alors, autant vous dire que le viol des hommes, dans des pays à forte tradition, avec une forte présence de religion, là, le tabou et le trauma, mais on peut même pas s'imaginer. Donc le silence, c'est une chape de plomb énorme, et l'impact de destruction, il est mais immense, immense, quoi.
On le voit bien dans un film pour lequel vous avez été consultante, qui a été réalisé en 2017, Libye, anatomie d'un crime de guerre, de Cécile Allégra. On voit bien exactement ce que vous dites. Un témoin dit, quand tu violes, tu casses tout.
Ouais.
On entend ça.
Mais c'est ça. Et c'est comme la phrase, en fait... après, j'ai travaillé dans énormément de pays. Je veux dire, après les Balkans, il y a la Libye, mais j'ai travaillé dans des pays dans tous les continents, dans les zones tribales du Pakistan, en Afghanistan, en Afrique centrale, sur ce sujet. Et ce qui est assez frappant, c'est que les victimes, elles ont toutes ces mêmes phrases. Par exemple, et que ça soit les hommes ou les femmes, c'est ça. Soit c'est ça casse tout, ou elles disent souvent aussi, c'est comme si j'étais mort. Il y a ces phrases qui reviennent. Donc, c'est ça aussi, c'est ça, ça vous enferme dans une espèce de prison totale où vous êtes totalement cassé, en même temps vous n'êtes pas mort. Et donc, il va falloir vivre quand même. Enfin, c'est quelque chose de très. C'est pour ça, c'est une arme qui est extrêmement pernicieuse et destructrice.
Et donc, votre travail là commence par arriver à parler aux victimes et à les faire parler. Et comment on est formé à ça? Ça ne s'improvise pas quand même, c'est très très difficile.
Ouais, c'est très difficile, mais alors déjà, moi j'ai quand même une expérience de terrain qui fait que je parlais à des victimes de manière générale, hein, de crimes de guerre et tout, donc de personnes qui ont des traumas. J'ai été formée aux techniques d'entretien, à ce qu'on appelle technique d'entretien avec des personnes qui ont des traumas. Donc voilà. Après, il y a une chose aussi que j'y sens, parce qu'attention, il y a une espèce de narratif comme ça qui est posé de dire les victimes elles parlent pas. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que déjà on veut pas les entendre.
Oui, c'est qu'on les entend pas.
Voilà, il y a une poids de la société et tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par parler. C'est-à-dire oui, évidemment, une victime elle va pas sortir, monter sur scène et dire bonjour, il m'est arrivé ça. Mais quand vous êtes dans un cadre très spécifique et moi aussi quand je suis sur le terrain, il y a un objectif. En fait, j'ai pas trouvé tant que ça de difficultés de parole, moi, dans mon expérience. Donc, je pense que c'est plus une question de contexte, de comment on approche ça, de comment on fait, du temps qu'on prend. Je parlais de Svieta, ça a duré longtemps. Donc, oui, il y a des techniques, j'en parlais, il faut laisser parler les gens, il faut surtout pas interrompre les silences, il faut... Et puis, souvent, ce qui passe, c'est qu'elle vous parle de plein de choses, avant, plein de choses, et il faut tenir le coup jusqu'au moment. Ce qui est très particulier aussi, ce qui se passe avec ces victimes-là, c'est que, ça, je l'ai vu aussi plein de fois, c'est-à-dire qu'elle parle, elle parle de plein de choses et tout. Et puis, il y a un jour, tu sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe et là, boum, et là, tout sort. Mais j'ai toujours, c'est tout sort d'un coup. Et c'est comme si ça sort. Et puis, et donc, il y a tout ce mécanisme-là. Donc oui, ça demande du temps, ça demande de l'écoute.
Et puis peut-être un code des bonnes pratiques. J'utilise ce terme à dessein parce qu'en 2022, un code de conduite mondiale a été publié, le Mourad Code. Ouais. Hein, à l'origine de cet outil, c'est Nadia Mourad qui a été prix Nobel de la paix en 2018, rescapée du génocide yézidi en Irak, victime d'esclavage sexuel par Daesh. Et l'idée de ce code, c'était justement dresser une sorte de charte, de liste des bonnes pratiques à l'intention des professionnels pour pas qu'ils fassent n'importe quoi ou qu'ils s'y prennent n'importe comment pour faire, par exemple, répéter inlassablement les histoires aux victimes parce que c'est raviver quand même les traumatismes. Donc, c'est pas anodin, quoi.
Non, c'est pas anodin. Et nous, on a participé à la création de ce code. C'est des discussions qu'on a eues depuis longtemps. On y a contribué, etc. Toute la communauté qui travaille sur ces questions y a contribué. Et Nadia Mourad, c'est très fort, en plus symboliquement, qui s'appelle le Mourad Code, du nom de Nadia. Mais oui, c'est important parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas formés et qui font ça. Il y a un manque de coordination totale sur le terrain et on en arrive à aller un peu à... Moi, je dis ça, ça peut paraître choquant, mais il y a une espèce de chasse à la victime. Là, on va sur le terrain, on cherche absolument les victimes de viol et puis on leur demande de raconter leur histoire. Alors que en réalité, une victime, elle devrait se retrouver dans la situation à dire ce qui lui est arrivé dans un objectif précis, qui est celui de préserver les éléments de témoignage et d'aller dans quelque chose de judiciaire. Et après, bien sûr, si elle a envie d'en parler, ce qui est tout autre chose. Mais c'est tout. Il faut qu'on arrête, en fait, de demander. Et on crée des traumas, mais monstrueux, sur les gens. Moi, sur le terrain, je le vois. Et ça me met dans une rage, mais folle, folle totale. Et puis, on n'a pas besoin de... C'est une question. Est-ce qu'on a besoin d'entendre tout ça aussi pour comprendre ce qui se passe? C'est une question. Un jour, j'ai une victime qui m'a dit ça. Ça m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit, mais est-ce que j'ai besoin de raconter en détail, dans le menu, ce qui m'est arrivé pour qu'on comprenne que
c'est pas ça qui fait qu'un dossier est juridiquement recevable.
Non, c'est pas forcément les détails de l'histoire, si je puis dire. Quand on est dans le judiciaire, pour ça que je prenais l'exemple de Svieta, cette couleur d'écusson, sont des détails importants. Quand on est dans un travail d'enquête, nous, on va chercher des éléments qui vont nous permettre de prouver que ce viol a eu lieu. Donc, oui, qu'elle dise qu'elle a été violée, qu'elle soit dans les détails, c'est pas forcément nécessaire. Quand c'est des conflits, souvent, et c'est aussi l'autre problème, pas tout le temps, mais souvent, on se retrouve avec des victimes qui ont subi ces viols des mois avant, voire des années avant. Donc de toute façon, les preuves, je veux dire, matériel médical, il n'y en a pas. Donc non, c'est pas forcément. D'ailleurs, moi, quand j'ai des objectifs vraiment judiciaires et de documentation, je leur demande pas de raconter l'histoire. Si elles ont envie de le faire, elles le font. Mais c'est pas là-dessus, moi, que je me concentre. Moi, je me concentre sur le autour. C'est ce qu'elle est capable de me dire, du contexte. Alors, je vérifie aussi la crédibilité. Ça aussi, c'est important. On va pas parler de ça, mais quand même, c'est important. Parce que toute parole de victime n'est pas non plus sacrée. Il y a aussi des fausses histoires. Il faut le dire, ça. Il y a un espèce de tabou aussi, je trouve, dans le monde. Il y a bien sûr des fausses histoires. Et il faut établir la crédibilité de ce qu'on vous raconte. Donc, c'est par rapport à plein de choses. C'est où ça s'est passé, quand elle nous raconte ça, si elle nous dit qu'elle est allée à tel endroit et qu'elle nous dit qu'elle est en une heure alors que c'est à 100 km. Enfin, c'est plein de choses comme ça, en fait. C'est la cohérence, la plausibilité de ce qu'elle est en train de raconter. Et c'est de tous ces éléments-là qu'on a besoin pour prouver que ça s'est passé. C'est pas de savoir le détail de comment elle a été violée.
C'est pour aider justement ces victimes autrement, ou pour pallier à ces lacunes dont vous parlez, ou pour même améliorer le système, que vous avez créé une ONG en 2014, We Are Not Weapons of War.
Oui, c'est un peu sur ce que vous me disiez au début, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que effectivement il y avait une forte méconnaissance de ce que c'était que les violences sexuelles liées au conflit. La stratégie du viol de guerre. Ensuite, j'ai fait une première conférence TED, et en fait, j'ai reçu un tas de messages et de plein de gens qui me disaient, mais je savais pas ce que c'était ça. Donc là, je me suis dit, oui, effectivement, il y a un gros problème. Donc il y avait vraiment un effort de pédagogie, particulièrement dans le monde francophone, parce que les médias anglo-saxons, ils parlaient beaucoup du viol de guerre. En France, on en parlait beaucoup moins. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Donc, je suis ravie, je pense, avoir contribué à ça avec d'autres, hein, évidemment. Mais voilà, donc oui, il y avait ça. Et puis, l'idée, je me suis dit, OK, moi, j'avais fait un constat sur le terrain. Et donc, je me suis dit, mais quel système on peut mettre en place, justement, pour mieux préserver ces victimes, pour mieux préserver les éléments de preuve et pour mieux permettre à ces personnes de continuer leur vie, parce que je suis très attachée à ça aussi. On parle justement victimes, survivants. En fait, j'ai dit souvent aux gens, demain, vous marchez dans la rue, vous cassez la jambe, venez me voir, vous avez votre plâtre et tout. Et puis à un moment, vous n'avez plus votre plâtre. Je veux dire, pas là, vous avez une vie avant et puis vous avez une vie après. Les victimes de crimes, elles ont une vie avant et elles vont avoir une vie après et elles vont vivre avec ça. Mais il faut leur permettre aussi d'avoir cette vie d'après. Et si on les définit dans cette position de victime et qu'on les y gèle, si je puis dire comme ça, pendant des années, on va continuer à leur demander de raconter leur histoire, mais à quel moment vous pensez que vous pouvez reconstruire votre vie? Et oui, on peut reconstruire sa vie après des crimes comme ça. Ça aussi, c'est important de le dire, parce que j'en vois plein de victimes qui reconstruisent leur vie avec ça.
Racontez-nous, Céline Bardet, ce que permet WOW, justement. Vous travaillez, par exemple, c'est pas le seul, mais vous travaillez avec Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour le travail qu'il mène à réparer les femmes en RDC. Et vous travaillez en RDC, mais pas seulement. Mais, par exemple, avec Denis Mukwege, c'est WOW qui vous permet de travailler en collaboration. Lui travaille en collaboration avec vous. Comment se passent les choses?
Oui, alors, non, mais déjà, Denis, je le connaissais avant. Je le connais depuis un certain temps. J'étais allée à Panzi, etc. Et voilà. Et donc, ayant créé WOW, évidemment que j'ai encore plus d'interactions avec Denis Mukwege aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un en plus que j'aime beaucoup d'un point de vue personnel. Donc voilà. Et bon, la République démocratique du Congo, c'est un endroit quand même très particulier sur la question des violences sexuelles. Il n'y a pas que la RDC. Je souris un peu avec ça parce que c'est un peu aussi la blague que je fais même avec Denis, parce que des fois j'ai un trop de viol de guerre égale République démocratique du Congo. Non, il y a des viols. Nous, on a une carte interactive où si vous regardez le monde, il y a beaucoup de pays où il y a des violences sexuelles liées aux situations de conflit. Mais voilà, donc je travaille avec lui sur, notamment, c'est un médecin, Denis. Il répare, effectivement. Là, pour le coup, il répare. C'est un gynécologue, il répare, chirurgien. Moi, je collabore beaucoup avec lui sur la question de la justice. Et lui, il explique pourquoi c'est important de lutter contre l'impunité. Il a compris ça. Il a créé un système holistique, c'est-à-dire que les survivantes, elles viennent à Panzi, elles sont soignées médicalement, elles sont accompagnées psychologiquement. Et puis quand elles sont à peu près mieux, déjà, dans leur tête et physiquement, elles sont accompagnées juridiquement. Et lui, il a compris qu'il fallait faire tout en même temps. Et en même temps, tout en même temps, et en même temps, au rythme de qu'elles peuvent tenir. Une victime, elle peut pas témoigner le lendemain de ce qui lui est arrivé. C'est très compliqué tout ça. Faut arrêter de demander tout ça aux victimes. Donc lui, il a compris tout ça. Donc on travaille vraiment sur les questions de justice et je le conseille beaucoup là-dessus parce qu'il est très, lui, il a compris tout ça. Il est très intéressé à innover aussi. On travaille beaucoup là-dessus. Et moi, c'est aussi il veut innover dans la justice. Il dit qu'il faut innover. Et moi, c'est ce que je dis, moi, depuis le début. Il est venu me voir au départ pour ça, parce que je pense qu'il faut qu'on mette en place des systèmes de justice différents quand il s'agit des victimes de viol. Et pas parce que le viol, c'est plus grave, pas parce que je sais pas. Simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un crime qui a des conséquences tellement singulières qu'on ne peut pas s'adresser aux victimes de la même manière. Et c'est ça qu'il faut faire. Et moi, j'aimerais, avant de mourir, si à un moment, on arrivait à avoir un système où on ne demande plus aux victimes, par exemple, d'aller témoigner dans une salle d'audience, je pense que ça serait extraordinaire, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Donc c'est tout un... c'est comment on peut innover pour arriver à mieux poursuivre et à réduire cette impunité qui est quand même prégnante, je veux dire, concernant les violences sexuelles.
Vous avez innové, Céline Bardet, puisqu'en 2018, vous avez créé un outil numérique. C'est le projet phare de WoW. Hein.
Exactement.
C'est une application mobile, cryptée, sécurisée, qui s'appelle Backup.
Ouais.
Comment ça marche et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte?
Alors, déjà, il faut dire que je ne connais absolument rien à la tech. C'est quand même assez intéressant et je me retrouve... j'ai eu le prix de la femme digitale. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est en fait sur le terrain, à un moment, pour faire très simple, je me suis dit, ok, c'est quoi le problème? Les victimes, parce que il y a celles qu'on entend, et maintenant on voit des témoignages dans les médias, etc. Mais ça, c'est 0,0. La plupart des victimes, on sait pas où elles sont. Elles s'expriment jamais parce qu'elles sont au milieu de nulle part et plus personne, elles ont accès à rien, etc. Deuxièmement, on parlait de Denis Mukwege. Denis, par exemple, il me disait, ok, moi j'ai l'hôpital de Panzi, aujourd'hui il a prix Nobel de la paix, il a des financements, il a des moyens. Il me dit, j'ai des voitures, sauf que les victimes, je sais pas où elles sont. Et un jour vraiment, je lui dis, mais tu sais ce qu'il faut faire? Il faut faire le Uber de la victime de viol. C'est-à-dire, il faut créer un système qui permette à un système qui soient adaptés, qui permettent à ces personnes, n'importe où elles soient, de dire « je suis là, j'existe ». Et ensuite, nous, on va les chercher et on s'occupe de tout. Et l'idée de Backup, elle est partie là-dessus. Et donc, on a développé ce qu'on appelle une web application, c'est-à-dire que ça, c'est comme une app, mais en fait, ça n'est pas une app techniquement, pour des raisons de sécurité. Et il y a un questionnaire qu'on a développé sur une base juridique, qu'on a développé avec les victimes. Donc c'est pour ça qu'on a mis 4 ans à le faire, parce qu'on a pris le temps d'avoir ces victimes. Et il permet à une victime de s'alerter, de donner son témoignage, de prendre des photos. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. On parlait de la Libye tout à l'heure. C'est que j'avais rencontré des femmes en Libye qui avaient été victimes de viol et qui ne voulaient pas voir de médecin. Et elles supportaient pas l'idée, mais même une femme médecin, c'était même pas la question, etc. Et à un moment, j'avais dit, sa sœur était venue me voir, elle était enfermée dans sa chambre. La femme, et moi j'ai dit, est-ce que elle peut prendre, parce qu'elle avait des blessures assez graves, j'ai dit, est-ce qu'elle peut prendre en photo ses blessures? Je m'ai dit, je vais montrer ça à un médecin pour voir. Et ça marche. Et donc les victimes, elles prennent en photo leurs blessures, ce qui peut constituer des éléments de preuve. Donc voilà, elles peuvent donner leur témoignage, s'enregistrer, etc. Et tout ça arrive sur ce qu'on appelle nous un back-office, qui est un outil d'analyse criminelle, donc qui reçoit toutes ces informations, qui va les trier, qui travaille avec l'intelligence artificielle, et on constitue des dossiers qui peuvent être transmis aux autorités judiciaires, à la documentation, à tout ça. Mais de l'autre côté, ça permet aussi évidemment, donc ce que je disais, d'identifier cette personne, et ensuite de faire le lien au niveau local, avec les services existants, pour que cette victime soit prise en charge et de suivre, nous, que la victime est bien prise en charge, etc. Donc, c'est un outil qui vient comme un peu un parapluie permettre aux victimes d'avoir une voix, de dire j'existe et de faciliter la coordination des services qui peuvent leur être apportés.
Il y a combien de personnes qui travaillent à WoW? Aujourd'hui, Céline Bardet.
Alors, à WoW aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, on est tout petit parce qu'on a des problèmes de ressources et de financement. Là, on va lancer Backup au niveau mondial, donc on est en recherche de financement. Mais l'outil a été développé par une équipe de 7 personnes, d'une compagnie qui s'appelle Intech Lux, qui est une compagnie tech, évidemment, parce qu'autant vous dire que nous, on n'a pas développé une app, hein, on n'a pas codé, on ne sait pas le faire. Donc il y a cette équipe-là qui travaille vraiment sur backup. Nous, on a développé la vision et la substance de l'outil. Et aujourd'hui, on est quelques-uns à Paris, dans un petit bureau à Paris, et on a des points focaux dans certains pays.
Et les bureaux sont là où nous nous trouvons, voilà. En fait, c'est-à-dire exactement. Dans votre antre. À Paris, tout petit appartement où vous habitez depuis une quinzaine d'années, qui sert donc de bureau aussi voilà. À votre ONG. Et puis c'est un lieu où il y a deux chats qui patientent assez souvent en attendant que vous reveniez, puisqu'on a bien compris au long ouais. de ces 5 entretiens que vous bougez beaucoup de chez vous, ouais. partez beaucoup, alors même que vous êtes une casanière, je crois. Donc c'est effectivement le paradoxe et la complexité ouais. de chaque être. C'est un lieu aussi où vous entassez pas mal d'objets que vous rapportez de vos très nombreux voyages.
Ouais.
On en voit un peu partout autour de nous. On arrive au terme de ces entretiens, Céline Bardet. Vous nous avez parlé quand même de choses très 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 lourdes à entendre, ne serait-ce qu'à entendre pour vous en permanence. Des horreurs, il y a des dangers aussi. En Libye, on l'a pas dit, mais vous avez votre hôtel a été fusillé. Ouais. Vous étiez obligé de dormir avec des gardes du corps, parce que de toute façon, vous n'entendiez pas les tirs. Enfin ouais. bon, c'est, voilà, c'est aussi... est-ce que vous avez pas besoin de temps en temps de... D'un endroit, une soupape, d'un lieu refuge.
Tout le temps. Et en fait, j'en ai un lieu refuge. J'ai un petit caillou au milieu de l'océan qui s'appelle l'île Dieu. Donc, qui est un refuge que j'ai depuis 25 ans. Et qui, je pense, a certainement, contribué fortement à mon équilibre mental, ça c'est sûr. Et le côté insulaire aussi, c'est-à-dire ce côté comme ça, on monte dans
couper
un bateau
monde.
Et on a l'impression vraiment qu'on laisse tout derrière. Donc l'île Dieu, c'est un endroit qui est extrêmement important pour moi, où j'y ai ma maison aussi, où il y a aussi beaucoup d'objets de mes voyages là-bas aussi. Donc voilà, il y a ça. Et puis j'essaie de me distancier aussi un peu de ces choses-là. Sinon, faut faire très attention, quoi, de pas sombrer complètement dans l'horreur. J'avais un psychiatre parce que j'ai eu j'ai été suivie pour des traumas. C'est très traumatique ce qu'on fait. Donc c'est aussi, il faut apprendre à prendre soin de soi aussi. C'est hyper important quand on fait ce genre de métier. Et qui m'avait dit, quand on regarde l'abîme vous regarde. Et c'est une phrase qui m'a marquée parce que c'est vrai. Donc il faut parfois lever les yeux et regarder autre chose que l'abîme, quoi.
En 2011, on le disait, vous aviez écrit un livre autobiographique. Mais vous êtes encore pleine de 1000 histoires à raconter. Vous n'avez pas envie d'écrire ?
Alors, je rêve d'écrire. En fait, j'ai envie d'écrire depuis très, très longtemps. Et c'est tout le problème. J'ai pas assez de temps, mais je vais en trouver. Mais j'ai envie d'écrire beaucoup, ouais, depuis longtemps.
Dernière question, Céline Bardet. Est-ce que maintenant, vous savez qui est Novak Djokovic ?
Alors maintenant, je le sais. Mais effectivement, je ne le savais pas. Je l'ai eu comme voisin charmant, sans savoir qui il était. Voilà. Mais en tout cas, un voisin très sympa et qui fait des très bonnes pizzas.
Ensuite d'être l'un des plus grands joueurs de tennis mondiaux.
Voilà, donc. Exactement.
Un grand merci, Céline Bardet, de nous avoir reçus chez vous durant ces 5 épisodes pour les abonnés.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Céline Bardet, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Alexandra Bergel, avec la collaboration de Daphné Abgral, une émission de Caroline Brouet, à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application de Radio France.